Toi, t'es assise et moi, je suis debout.
Oui.
Ça va pas, ça. Ah. Je me cache pas.
Non, te cache pas. J'ai besoin de toi.
Je pense que j'ai un...
cet été. Nous sommes un groupe de jeunes, plein de diversité. Chacun avec ses sujets préférés. Des responsables un peu tarés, mais très engagés et attentionnés. Chaque mercredi, on a de la joie à se retrouver. Du temps ensemble, on aime passer. Pour discuter, rigoler, s'embêter, manger, jouer, chanter, méditer, prier, partager, se confier, questionner, se conseiller, s'interroger, se ressourcer et s'encourager. Nos milieux de semaine sont allégés. Une pause nous est proposée. Un masque, on n'a pas besoin d'enfiler. Faire semblant n'est pas demandé. On n'est pas obligé de rigoler. On a le droit de pleurer. On peut arriver avec nos difficultés. Des amitiés fortes, on a créé. Des moments de complicité, on aime partager. Et au centre de cela, Dieu, on a placé. Pour qu'il continue à nous guider et qu'on puisse toujours plus lui ressembler.
Wow, vous avez entendu ce qu'elle vient de dire, ça demande des jeunes. Hein. Non mais, ne vous laissez pas berner. Être jeune, courir dans les champs, se retrouver après 20 heures pour rigoler, être dans la joie, ça va 2 minutes. Hein. Puis la vie, elle reste dure. Être une personne mûre, c'est être une personne sage, c'est des responsabilités, enfin, c'est être un adulte, quoi.
Pardon, un jeune, ça n'a pas la vie facile. C'est pour ça qu'il dit que les responsables sont pareils, qu'on peut venir comme on se sentait.
Ouais, jeunesse, c'est jamais se remettre en question. Hein. Et puis tu sais, pour ton information, c'est noté dans la Bible.
Alors déjà, dire que c'est écrit dans la Bible ne fait pas tant un grand théologien qu'un raison.
C'est Jésus qui a dit « Venez à moi, vous qui êtes tous fatigués. » Moi, je suis très fatiguée, je me suis levée ce matin, je remplis le contrat.
Si ton contrat a une clause, ça veut juste dire que t'es passé à côté du message principal.
C'est-à-dire...
Jésus est venu pour sauver tout le monde, en fait. L'amour, la grâce, tout ça, tout ça.
Ouais, bah, il accepte aussi les fatigués, non?
Ça, c'est sûr, il accepte les fatigués, les joyeux, les vieux et les jeunes. Mais si le mercredi, on se retrouve d'un bon temps de joie, c'est pas parce qu'on est jeune, mais c'est parce que le Seigneur est avec nous.
Donc, t'es en train de me dire qu'on peut être fatigué, pleine de sagesse comme les gens qui sont ici, et quand même se retrouver dans la joie?
Bah, oui. Pourquoi? Je sais pas pourquoi tu pensais qu'on pouvait pas. Le Seigneur veut qu'on soit joyeux, mais que sa joie soit en lui avant tout.
Le groupe de Jade, c'est que je vous invite à lire Jean 15 pour vérifier ses propos.
Bah, tu sais quoi, tu m'as convaincue. Moi, franchement, je suis plus fatiguée, je suis 100% joyeux là.
Bon, pas sûr que tout soit compris, mais c'est pour ça qu'il y a la suite du culte.
Le groupe CPP vous invite à être dans la joie avec vos frères et vos sœurs pour louer Dieu.
Thank you. laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna.
Thank you. Pendant que Mélina va gentiment se mettre en place... Pardon ? C'est tout bon, d'accord, on me dit des choses. Je vais inviter les enfants à pouvoir rejoindre leur groupe avec leurs moniteurs respectifs, moniteurs et monitrices. Et avant qu'ils se lèvent, je vais prier pour eux et elles. Ouais, Seigneur, je te remercie pour cette jeunesse dans cette église. Je te remercie parce qu'ils viennent les dimanches avec leurs parents. Ils sont prêts à entendre ta voix, Seigneur. Et je te remercie vraiment pour les moniteurs, pour les monitrices, pour le service qu'ils et elles rendent. Et je te prie que voilà, pour ce dimanche matin, tout puisse bien se passer, que les enfants puissent passer un bon moment, qu'ils puissent encore en apprendre plus sur toi. Au nom de Jésus, amen.
Nous raconter une expérience que tu as vécue ou que tu vis au collège.
Oui, alors j'ai beaucoup de profs qui sont assez cool dans le sens où ils parlent beaucoup avec nous et t'as l'impression que c'est d'égal à égal et il n'y a pas cette idée de supériorité et c'est plus comme une impression de collaboration entre élèves et professeurs que j'aime.
Est-ce que tu peux me donner ton prénom ?
Alors je m'appelle Taina.
Taina, est-ce que tu as déjà vécu une bonne expérience avec un prof ?
Alors oui, c'est ma prof d'histoire. En général, les professeurs, quand on est absent ou on fait quelque chose, généralement, tout de suite, ils vont nous blâmer, ils vont nous afficher devant toute la classe et un peu être sur notre dos. Alors qu'elle, souvent, elle cherche à comprendre et elle nous prend à la fin du cours pour qu'on puisse expliquer, parler avec elle, discuter de nos orientations et qu'elle puisse comprendre ce qui se passe dans nos vies.
Alors, est-ce que tu peux nous donner ton prénom ?
Moi, c'est Camille.
Camille, est-ce que tu as déjà été choquée par l'attitude d'un professeur en classe ?
Oui, mon prof de biologie qui rabaissait beaucoup d'élèves ou qui disait à certains élèves qu'ils n'allaient pas passer leur année parce qu'ils avaient des mauvaises notes.
Est-ce que tu peux nous donner ton prénom ?
Audrey.
Est-ce que tu peux me raconter une expérience que tu as eue à l'école ?
Alors, c'était en art plastique. Mon professeur, on n'avait vraiment pas un bon contact. Et en fait, un jour, quand il m'énervait un peu trop, j'ai regardé ma pote qui était à côté de moi et puis je lui ai dit, mais franchement, je sais pas ce que je vais faire. Et le prof d'art plastique, il est parti, puis il est revenu avec un gros couteau qu'il utilisait pour couper les feuilles. Et il le pose sur la table et il me regarde comme ça, il me fait, bah vas-y.
Comment tu t'appelles ?
Émeline.
Émeline, est-ce que tu peux nous raconter une expérience que tu as eue en école ?
Oui, alors en fait, moi je suis à la Haute École de Santé du Rêve pour devenir infirmière et j'ai une enseignante qui n'arrête pas de dévaloriser les autres professions, que ce soit des aides-soignantes, des assistants en soins et santé communautaire ou même des médecins. Elle les dévalorise en disant que, en gros, nous, on sait faire beaucoup plus de choses, tout ça. Et je trouve ça vraiment pas cool, ni éthique d'ailleurs, de dévaloriser les autres pour se mettre en avant.
Comment est-ce que vous vous êtes sentie à ce moment-là ?
Je me suis sentie assez mal à l'aise que le prof rabaisse des élèves gratuitement.
Moi, j'ai ressenti de la peur face à son attitude parce qu'il avait une attitude de supériorité et je me suis sentie menacée.
Moi, j'étais assez énervée et il y a même des gens qui sont sortis de la salle en étant offensés car ils considéraient qu'il n'y avait plus de respect.
Bonjour.
Salut.
Alors, déjà, j'espère que vous allez bien, que vous avez réussi à comprendre la vidéo. Je suis désolée, des fois le son n'était pas très fort. J'ose espérer que mes qualités de prédicatrice sont meilleures que mes qualités de vidéaste. Merci beaucoup. Alors voilà, donc vous avez entendu une vidéo hein, avec des témoignages des jeunes. Pour l'instant, c'est dur de voir un petit peu le lien avec cet esprit de fête qu'on essaye de mettre en place ce matin. Mais vous allez comprendre. Parce qu'en fait, dans le point commun entre ces anecdotes, c'est que tous ces jeunes étaient réunis. Certains ont eu des bonnes expériences et d'autres ont eu des moins bonnes expériences. Et sur ces moins bonnes expériences, eh ben, y a un petit peu des points communs qu'on va retrouver dans un texte de la Bible que je vais vous introduire un peu plus tard. Mais avant ça, moi je suis sûre que vous avez vécu des situations plus ou moins similaires. Alors l'école, ça remonte. C'est le culte cet été, j'ai le droit. Pardon. Mais même en dehors de ça, je pense au travail. Ça a dû vous arriver d'avoir des situations comme ça où une personne vous met mal à l'aise, ça vous donne envie de partir. Par exemple, je ne suis pas encore vraiment dans le monde du travail, mais j'imagine, je me projette. J'imagine un responsable comme ça qui arrive, on est en réunion, puis se lève d'un coup, il dit que ça ne va pas, qu'il faut tout changer, qu'il faut se mettre au travail. C'est la faute de Philippe. C'est pas agréable. C'est jamais très agréable d'être pointé du doigt au milieu d'une réunion ou que quelqu'un vienne et nous dise « ça va pas, ce que vous faites, c'est pas bien ». Généralement, ça nous donne pas envie de rester. Et on a donc, je pense, tous été confrontés à ce genre de situation, pas très agréable. Hein? Et étonnamment, marquer son autorité par l'écrasement d'autrui, eh ben, ça date pas d'hier. Et comme je vous ai dit, on le retrouve même dans la Bible. Et je vous invite à lire Jean 8, les versets 1 à 11. Et je vais lire dans la version Louis II. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu ?» Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme ils continuaient à l'interroger, il se releva et leur dit « Que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là, au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Alors dans ce texte, on retrouve deux schémas d'autorité où autrement dit, deux manières différentes de réunir les gens. Et je vous propose d'analyser tout ça. Tout d'abord, la première méthode, que j'ai nommée à la pharisienne, elle se passe en plusieurs étapes que je vais vous décortiquer. Cette première méthode, elle a inspiré de nombreuses générations et semble perdurer, malheureusement. Mais avant d'aller plus loin dans mes conclusions, on va prendre le temps de voir ces différentes étapes. Tout d'abord, première étape, Tout est dans l'attitude. Les pharisiens et les scribes, c'est pas n'importe qui. À ce moment-là, c'est des personnes qui sont riches, qui sont respectées, qui sont religieuses, mais qui sont aussi politiciennes. Ça fait d'eux des êtres au-dessus. Malheureusement, c'est pas vraiment vrai, mais pour eux, ça l'est. Et donc, quand ils arrivent en société, ils aiment se présenter beaux, forts, fiers. Et ils arrivent la tête haute, le menton relevé, debout, au milieu du peuple. Comme vous le voyez là, comme cet orateur grec, par exemple. Je ne sais pas s'il est grec, comme cette personne. Notre deuxième étape, donc tout est dans l'attitude, mais attention, ça ne suffit pas. Il faut toujours s'en prendre à plus petit que soi, sinon c'est dangereux. Donc dans notre situation, les pharisiens, ils prennent pas n'importe qui. Ils choisissent leur cible avec attention. Ils prennent une femme. Actuellement, ça se fait pas trop, mais pourquoi une femme? Eh bien, à l'époque, les femmes, c'était pas les plus importantes. Elles se tenaient pas forcément à la place que j'ai aujourd'hui, par exemple. Et elles avaient clairement pas trop d'autorité. Donc c'est la cible parfaite, une femme. Mais en plus, c'est pas n'importe quelle femme, parce qu'on l'a pris en plein délit. Donc vraiment, elle combine tout ce qu'il faut pour être la cible la plus petite et la plus facile à attaquer possible. Ensuite, troisième étape pour bien réussir la méthode à la pharisienne, c'est toujours interpeller l'opposant. On interpelle pour faire déstabiliser et espérer faire chuter. Donc la cible principale des pharisiens, c'est pas que cette femme, c'est surtout d'attaquer Jésus. Or Jésus, il est un peu hors d'atteinte pour les pharisiens, parce qu'ils ont un petit historique. Les pharisiens savent que Jésus, il est un peu dur à attaquer, donc ils tentent plusieurs tactiques. Et on peut le lire au verset 4 et 5, une belle interpellation. Et la plaçant au milieu du peuple, il dira à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu ?» Interpellation directe. Donc les pharisiens, ils cherchent à déstabiliser Jésus en l'interpellant devant tout le monde. C'est jamais simple de répondre quand on est mis comme ça sur le vif au milieu des autres. Et donc ça, c'est les trois points principaux, hein, les bonnes clés pour réussir une rencontre selon les pharisiens. Donc il faut un bon show, une bonne qualité, bien choisir sa cible, tout ça pour en sortir encore plus glorieux et encore plus fier. Cependant, vous vous doutez bien, leur méthode, elle n'est pas efficace à 100%, comme on peut le constater en lisant toute l'histoire d'ailleurs. Premièrement, tout mettre dans l'attitude, c'est un petit peu dangereux, parce que les pharisiens, ils arrivent fiers, et leur idée, c'est qu'ils repartent encore plus fiers. Problème, on peut lire au verset 9, quand ils entendirent cela, les paroles de Jésus donc, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et l'attitude fière, ça colle pas vraiment avec l'attitude d'une personne qui est accusée par sa conscience. Donc on passe d'avoir le menton relevé, la tête bien droite, les épaules carrées, on arrive debout, fier. Et là, les pharisiens, ils repartent en regardant le sol, on évite l'attention, on évite tout contact, il faut se mettre en sécurité. Cette attitude, donc, faut savoir la tenir. Et Jésus a réussi à la briser. Et deuxièmement, les pharisiens, ils n'ont pas choisi une cible tellement facile au final. Parce qu'en voulant s'en prendre à Jésus au travers de cette femme, les pharisiens, ils ont réussi ni à lapider la femme, ni à accuser Jésus. Dommage. Objectif pas complété, du coup. Hein. Et en plus de ça, les pharisiens, ils aiment être au milieu de la foule.
et la foule, elle part. Donc, à nouveau, c'est pas vraiment complété. Puisque, comme on voit la suite du verset 9, Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Donc, le show, il s'est vite tombé en miettes. Voilà. Alors, comment Jésus il réussit à retourner la situation de la sorte? Comment est-ce qu'il fait pour prendre ce contre-pied total aux pharisiens? Eh bien, on a la méthode Jésus, qui à nouveau est une méthode très intéressante. Et tout d'abord, Jésus, il ne réunit pas la foule pour faire du mal. Son objectif, quand il a une foule autour de lui, c'est pas de juger les pécheurs, mais c'est d'enseigner avec amour. Et je dirais même plus, Jésus ne réunit pas la foule. C'est la foule qui se réunit pour Jésus. Jésus n'appelle pas la foule à venir à lui. Ça, on peut le lire au verset 2. C'est clairement noté, le peuple vint à lui. Et comme le peuple vient, Jésus les enseigne. Et lorsque Jésus enseigne à la foule, elle reste, elle suit et elle écoute Jésus. Étonnamment, et ça on peut le voir avec un tout petit détail, Jésus ne prend pas une posture d'enseignant autoritaire, comme on a pu entendre dans les extraits des jeunes, alors qu'il aurait pu, parce que c'est quand même le Fils de Dieu, donc il aurait pu prendre cette position autoritaire, mais pourtant c'est spécifié que Jésus s'assoit. Alors, ça peut paraître un détail, mais c'est pourtant démonstratif de l'attitude bienveillante et pédagogue de Jésus, qui est en contradiction totale avec les coutumes de l'époque, où les orateurs, les politiciens, les gens importants qui avaient des choses à dire, se mettaient au milieu d'une place et criaient tout poumon pour que tout le monde les entende. Je vous ai mis une petite peinture, je ne sais pas qui l'a fait, mais vous voyez que Jésus est assis et il enseigne avec amour à tout le monde, aux enfants, aux adultes, et aux plus âgés aussi. Je vois pas. Voilà. Et puis, autre méthode de Jésus, les pharisiens, ils interpellent Jésus. C'est de lui lancer des piques, de le faire réagir, avec des mots bien choisis, de type « Et toi, là ?» C'est un peu ce qu'ils font. Jésus, au lieu de ça, au lieu de se lever et d'entrer un peu dans un fort débat, il reste assis. C'est même plus, il baisse la tête pour écrire avec le doigt sur la terre. C'est pas noté ce qu'il écrit, donc je reste avec cette grande curiosité. Je ne peux pas vous apporter de réponse. Et je vais être sincère, moi je travaille avec des enfants, donc cette posture d'autorité un peu, ça m'arrive de devoir la prendre, malheureusement. Et mon rôle, c'est de les aider à faire leurs devoirs, mais aussi, pour garder mon travail, de faire en sorte qu'ils soient silencieux. Impossible, oui, c'est vrai, ce n'est pas possible. Garder une classe d'élèves silencieuse, ça ne se fait pas. Avec Elliot, qui travaille avec moi, on devient fou. Mais c'est pas là où je veux en venir, c'est pas le moment. Vous n'êtes pas mes thérapeutes. Ça nous arrive de devoir rappeler à l'ordre, pour pas dire crier de toutes nos forces pour qu'ils nous écoutent, puisqu'ils ne le font pas. Et donc, quand on le fait pour la première fois, on est encore plein d'énergie, mais quand c'est la troisième fois, dans la même minute, c'est un peu fatigant. Et puis surtout, c'est vraiment décourageant quand on voit que, au moment où on crie un silence parfait, agréable, tout ce qu'on attend, ils font comme s'ils nous écoutaient. Deux secondes après, ça repart. C'est pas simple de penser qu'on est écouté et on ne l'est pas. Et c'est ce que Jésus fait à ces pharisiens. Ça rend fou. Jésus les rend fous. Parce que eux, les pharisiens, ils veulent du répondant de la part de Jésus. Ils veulent qu'il les écoute. Jésus, ça lui passe au-dessus. Je ne vous invite pas à ignorer toujours les gens, mais dans certaines situations, c'est des fois bien de,
de savoir quand parler et quand se taire. Et donc Jésus, il a cette attitude où il reste silencieux face aux accusations et aux interrogations des pharisiens sur la situation de cette femme. Et donc cette attitude, ça n'aide pas les pharisiens à rester fiers. Hein. Aucune réponse, sauf une phrase qui n'aide pas non plus à rester fiers. Hein. Une phrase qui est intelligente, une phrase qui est sage, qui n'invite aucune réponse par des paroles. C'est Jésus qui dit « Que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. » Et après, il se rassoit et il continue à écrire par terre. Donc au final, la méthode de Jésus, donc elle reprend que on réunit la foule pour enseigner par amour, on n'a pas une posture supérieure aux autres, on dit des choses intelligentes et on ne condamne pas. Jésus ne condamne pas. Jésus n'a pas condamné les pharisiens pour leur mauvaise envie de le tester. Jésus n'a pas non plus condamné la femme. Jésus traite les personnes avec attention, bienveillance, sagesse et amour. Et je dis ça parce que Jésus, il aurait pu gagner ce débat 1000 fois plus vite s'il s'était levé, avait marqué son autorité, aurait corrigé les pharisiens, aurait repris la foule qui s'est réunie pour voir le pauvre malheur d'une femme. Il aurait aussi pu accuser cette femme devant tout le monde d'avoir commis un péché, parce que c'est vrai, elle a commis un péché. Et c'était fini. Mais non, Jésus n'a rien fait de cela. Parce que Jésus n'est pas venu sur terre pour nous accuser et pour mettre à jour tous nos péchés. Jésus est venu pour nous sauver de nos péchés par amour et rien d'autre. Donc cette méthode Jésus, elle nous enseigne que la meilleure raison de se réunir, c'est l'amour, l'entraide, l'écoute, la bienveillance, le soutien, l'attention et le respect. Alors on a vu ces deux méthodes, mais la question que je nous pose, c'est quelle est notre raison de nous réunir? Tout le monde peut avoir une raison différente, presque, mais j'ose espérer que si vous venez ce dimanche matin, c'est avant tout pour apporter un culte à Dieu. C'est pour que, ensemble, entre frères et sœurs, on puisse affirmer que Dieu est bon, que Dieu est grand, c'est Dieu qui nous a sauvés et surtout que Dieu nous aime. Au final, la raison des cultes du dimanche matin, c'est donc une raison de joie. Et je dirais même, ça devrait être une fête. Et cette réflexion, elle ne vient pas de nulle part. Ça fait maintenant 3 mois, c'était en janvier. On a demandé à Philippe de venir un mercredi soir pour nous parler de ce qu'est un culte. Alors, je ne savais pas comment Philippe allait nous présenter le sujet. Je peux vous garantir que ça nous a fait réfléchir. Et ça nous a même conduit à en faire le thème de notre culte cet été. Parce que Philippe a cité un psaume que je vais vous lire. C'est le psaume 100. Psaume de louange. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez en allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa bonté durera toujours, et sa fidélité de génération en génération. Alors voilà la raison de notre rencontre ce matin. Dieu est la raison de notre présence ici. On se retrouve entre frères et sœurs, car Dieu est notre joie, Dieu nous aime et il nous accueille avec plaisir ce matin. Alors à nous de lui montrer notre reconnaissance par des cris de joie, par des chants, par des prières de reconnaissance. Parce que oui, Dieu est notre raison d'être ensemble et d'être dans la joie.
Ton amour manifesté.
donc pouvoir passer maintenant à un moment qui est un petit peu particulier pour le dimanche matin. C'est bon, ça marche? Est-ce que vous avez entendu ma première phrase? Pas du tout, je reprends. On va pouvoir passer à un moment qui est un peu particulier pour un dimanche matin, mais qu'on fait régulièrement en groupe de jeunes. Donc, on va vous demander un petit peu de souplesse, un petit peu d'originalité pour un dimanche matin. On va faire un temps en petit groupe. Alors, c'est quelque chose qu'on fait souvent, très souvent. On essaye de le faire plus ou moins toutes les semaines. L'objectif, c'est vraiment de mieux se connaître, de s'approprier la prédication, de pouvoir en discuter, de s'encourager personnellement. Et donc, on vous invite voilà, à prendre vraiment une dizaine de minutes en petit groupe. Vous pouvez vous mettre 3, 4, 2, si vous êtes plus à l'aise. Mettez-vous avec des gens avec qui vous êtes à l'aise, vous vous sentez libre de discuter de ce dont on a parlé. Et l'objectif maintenant, c'est vraiment de pouvoir partager vos émotions, ce que vous avez ressenti, ce que vous avez appris, ce sur quoi vous aimeriez développer maintenant dans la suite de votre semaine. Et du coup, voilà. Au groupe de jeunes, je dis normalement s'il n'y a pas de questions, mais là on va éviter de demander s'il y a des questions. Donc, ce que je vous laisse faire, c'est vous mettre en petit groupe pour une dizaine de minutes, et puis n'hésitez pas à conclure par la prière aussi. Voilà.
C'est possible qu'il y ait des jeunes qui vous rejoignent, si ça ne vous dérange pas. Parce qu'on est nombreux ce matin, merci Seigneur. Donc si vous voulez qu'un jeune vienne dans votre groupe, ça vous va de juste lever la main, comme ça on sait vers qui aller, on se sent pas trop seul. Faut y aller là.
Thank you. Bien. Alors, j'espère que ces discussions ont pu être fructueuses. Je suis désolé de devoir vous interrompre après si peu de temps. Mais voilà, je vous laisse gentiment remettre les chaises en place, vous réinstaller. Très bien. Alors, pour introduire ce chant, enfin avant ce chant, je ne sais pas si c'est une très bonne introduction, mais la semaine passée, on a recommencé une petite tradition qu'on avait à l'église de Mérin pré-Covid, du coup, qui est un temps d'offrande. Et du coup, pendant ce chant, on a déjà repris la semaine passée, mais on va le refaire aussi cette semaine. On va passer avec des petits paniers. Et voilà, on vous invite à mettre ce que vous avez envie pour soutenir l'église de Mérin. Et puis voilà.
Je vois la beauté d'un coucher de soleil. Dieu infini, comment te dire?
Allô. Allô. Bonjour à tous.
Salut Raphaël.
Du coup, je vais vous partager un petit témoignage de quand je suis arrivé au CTT, j'ai tout de suite été frappé par l'ambiance de la soirée. Une ambiance calme, chaleureuse, remplie de joie et d'amour. J'ai aussi été frappé par leur façon de comprendre la Bible et Dieu. Pour moi, Dieu était un père aimant qui s'occupait de son peuple comme on s'occupe de ses enfants. Avec cet été, j'ai appris à voir Jésus sous un autre angle, celui d'un grand frère protecteur. En effet, je le considère comme étant non seulement mon père, mais je considère également Jésus comme étant mon frère. Jésus nous voit tous et toutes comme étant des membres de sa famille. Comme par exemple, dans Matthieu 13, verset 50, « Car celui qui fait la volonté de mon Père céleste, celui-là est pour moi un frère, une sœur ou une mère. » Dieu notre Père, notre frère, nous fortifie. Éphésiens 6, verset 10, « Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur, dans sa force toute puissante. » Mais il nous met en garde face aux ténèbres. Hébreux 3, verset 12. Faites attention, frères et sœurs, qu'aucun de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, qui le détourne du vieux vivant. Pour en revenir à cet été, c'est la chose qui m'a le plus marqué et j'encourage vraiment ceux qui peuvent venir de le faire. J'espère que grâce à mes paroles, vous verrez Jésus comme étant un peu plus un membre de votre famille. Merci à tous.
on approche gentiment la fin du culte. Et du coup, on va pouvoir passer un temps d'annonce. Est-ce que Laurent, tu peux faire défiler ? Donc on va commencer par ça et après il y aura quelques annonces orales. Donc voilà, des personnes seront là pour vous après le culte, pour prier. Mardi 16 avril, on a une prière communautaire dans la salle du groupe de jeunes qui est juste en bas. Voilà, ça c'est nous. Trop tard, c'est plus nous. Je sais pas, j'ai eu une consigne de faire ça défiler, on m'a pas dit plus. Parfait. Maintenant que ces annonces ont été défilées, quelques annonces orales. Est-ce que David Porter, tu veux prendre la parole pour l'Alsace Gospel Choir?
Si ça ne dérange pas, voilà, comme ça j'ai... Et demain, et pas trois. Donc dimanche prochain, 15h, ici dans la salle de culte, il y aura donc un chorale gospel avec une cinquantaine, oui, 50 choristes et bandes de l'Alsace Gospel Choir qui sont en tournée. Ils auront déjà fait plusieurs concerts avant de venir. Ils sont à Lyon le samedi soir et sur leur chemin de retour en Alsace, ils s'arrêtent à Meyrin. C'est pour ça que c'est un peu peut-être plus tôt, à 15h. Leur chef de chorale m'a dit que ça sera très dynamique. Lui-même, c'est un personnage assez dynamique, étant canadien d'arrière-plan écossais. Je ne dis pas plus. Il m'a dit que vous ne serez pas déçus, donc que ça vous fera beaucoup de bien, mais également vos amis, vos voisins, votre famille, chrétien ou pas. Il est peut-être plus facile d'inviter les gens à un concert de musique d'être qu'à un culte, par exemple. Le week-end dernier, avec mon épouse, on était chez une ancienne voisine de la région parisienne qui se dit athée à 87 ans. Elle se rappelle d'avoir été à un concert donc avec nous il y a 15 ans, auquel on l'a invité. Bouche à l'oreille se passe peut-être le mieux, mais il y a des flyers aussi derrière. On va peut-être les avancer à la petite table dans le foyer. Si vous voulez le partager sur des réseaux sociaux, merci de venir me le demander. Ou vous pouvez aussi juste avoir un peu de bon sens et le prendre en photo. Et là, vous l'avez déjà. Quelques personnes donc, nous donnent un coup de main pour des questions logistiques. On cherche encore deux personnes à nous aider à préparer les sandwichs à l'issue du culte dimanche prochain pour environ 30 à 45 minutes, donc pour l'arrivée de la chorale. Et puis, si quelqu'un passe à la bibliothèque du Forum cette semaine, merci de venir me parler. J'ai une affiche si jamais quelqu'un a l'habitude d'y aller. Voilà. Donc, venez nombreux. Ça vaut la peine. Ne vous faites pas trop de soucis parce qu'il va faire beau. Mais personne ne veut venir. Ne vous inquiétez pas. La météo va changer pendant cette semaine. Donc, vous allez avoir envie de sortir.
Claude, est-ce que tu veux faire un petit retour par rapport à Alva?
Alors oui, peut-être un premier retour du cours Alpha, donc il a commencé mercredi passé. C'est réjouissant pour deux raisons. D'une part, on est une bonne équipe, on est 9 à préparer ce cours pour les 12 semaines qui viennent, plus que 11 parce qu'il y en a déjà eu une. Mais on a un bon groupe de préparation, ça c'est chouette. Et puis aussi, il y a un bon groupe d'invités, donc on est en tout 16, il y a 16 personnes, 13 invités et 3 personnes qui accompagnent. Donc on est vraiment un grand bon groupe et on est vraiment reconnaissant pour le début de ce cours Alpha. Donc continuez à prier pour tous ces invités, Seigneur, afin qu'ils puissent découvrir le Seigneur, qu'ils puissent découvrir ou approfondir leur foi avec ce cours. Je voudrais aussi, je profite que j'ai le micro, enfin je suis jamais, pour faire un petit retour aussi par rapport au concert, à la louange de Glorious qui a eu lieu vendredi. Donc nous étions à peu près 3000 personnes dans ce Pal Expo, dans cette aréna à Genève. Et je crois que c'était aussi un moment merveilleux de pouvoir entendre ce groupe Glorious. Et c'était vraiment aussi des moments très très chouettes et aussi d'une très grande profondeur et d'une très grande qualité. Surtout qu'on a parlé des pèlerins d'Emmaüs. Et c'est vrai que les pèlerins d'Emmaüs n'ont pas vu tout de suite que le Seigneur les a accompagnés pendant un bon bout. Alors c'est aussi un mot qu'on peut vous laisser. Le Seigneur vous accompagne, même si vous ne le voyez pas tout de suite.
Merci beaucoup, Claude. Rebecca, est-ce que tu veux nous faire l'annonce pour le goûter des princesses, s'il te plaît, qu'on a vu défiler ?
Alors, comme vous avez pu voir, samedi prochain, on aura des petites princesses ici dans cette salle, de 4 à 7 ans. Si vous avez encore des petites filles, des voisines qui ont dans cette âge tranche, il y a encore de la place. On a une équipe qui est super motivée. On va venir dans notre plus belle robe et on se réjouit de passer une après-midi plein de paillettes et de je ne sais pas quoi d'autre encore avec les filles. Et si vous vous demandez comment vous pouvez nous donner un coup de main, très volontiers d'empiler les chaises après le culte pour que la salle elle est libre pour accueillir des petites princesses samedi prochain. Merci. Par 10. Apparemment, des piles par 10. Merci.
Merci. C'est dommage. J'ai plus l'âge d'y aller. C'est pas grave. On va pouvoir maintenant, sur ce ton humoristique, passer à une dernière vidéo préparée par les soins de Mélina. Un petit bêtisier.
Comment est-ce que vous vous êtes sentie à ce moment-là ? Comment est-ce que vous vous êtes sentie à ce moment-là ?
Moi, je me suis sentie passablement mal à l'aise.
Comment est-ce que vous vous êtes sentie à ce moment-là ?
Je me suis sentie assez mal.
Mayonnaise !
Franchement, mayonnaise, quoi !
Voilà.
Mais j'ai la petite cloche pour ne pas louper.
Voilà, juste en dessous de la vidéo.
Et comment on fait ? Oh, Max !
Vous, ça va ? Vous aimez bien le groupe de jeunes ?
Ouais !
C'est comme ça.
Pouce bleu.
Comme le pouce bleu.
J'ai rien compris. Pour conclure ce culte, je vous invite à vous lever pour la bénédiction. Je vais vous lire deux versets dans Jean 15, 16 à 17. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Bon dimanche à chacun et chacune, bonne semaine.